Chapitre 12. Les Français à Rome. La première invasion des Français à Rome sous le Directoire fut infâme et spoliatrice. La seconde sous l'Empire fut inique. Mais, une fois accomplie, l'ordre régna. La République demanda à Rome, pour un armistice, 22 millions, l'occupation de la citadelle d'Ancône, 100 tableaux et statues, 100 manuscrits au choix des commissaires français. On voulait surtout avoir le buste de Brutus et celui de Marc Aurèle. Tant de gens en France s'appelaient alors Brutus. Il était tout simple qu'ils désirassent posséder la pieuse image de leur père putatif. Mais Marc Aurèle, de qui était-il parent ? Attila, pour s'éloigner de Rome, ne demanda qu'un certain nombre de livres de poivre et de soie. De notre temps, elle s'est un moment rachetée avec des tableaux. De grands artistes, souvent négligés et malheureux, ont laissé leurs chefs-d'œuvre pour servir de rançon aux ingrates cités qui les avaient méconnus. Les Français de l'Empire eurent à réparer les ravages qu'avaient faits à Rome les Français de la République. Ils devaient aussi une expiation à ce sac de Rome, accompli par une armée que conduisait un prince français. C'était à Bonaparte qu'il convenait de mettre de l'ordre dans des ruines qu'un autre Bonaparte avait vu croître et dont il a décrit le bouleversement. Le plan que suivit l'administration française pour le déblaiement du Forum fut celui que Raphaël avait proposé à Léon X. Elle fit sortir de terre les trois colonnes du temple de Jupiter tonnant. Elle mit à nu le portique du temple de la Concorde. Elle découvrit le pavé de la voie sacrée. Elle fit disparaître les constructions nouvelles dont le temple de la paix était encombré. Elle enleva les terres qui recouvraient l'emmarchement du Colisée, vida l'intérieur de l'arène et fit reparaître 7 ou 8 salles des bains de Titus. Ailleurs, le forum de Trajan fut exploré. On répara le Panthéon, les thermes de Dioclétien, le temple de la pudicité patricienne. Des fonds furent assignés pour entretenir hors de Rome les murs de Falerie et le tombeau de Cecilia Metellia. Les travaux d'entretien pour les édifices modernes furent également suivis. Saint-Paul hors des murs, qui n'existe plus, vit restaurer sa toiture. Saint-Agnès, Saint-Martino ai Monti furent défendus contre le temps. On refit une partie des combles et des pavés de Saint-Pierre. Des paratonnerres mirent à l'abri de la foudre le dôme de Michel-Ange. On marqua l'emplacement de 2 cimetières à l'est et à l'ouest de la ville, et celui de l'est, près du couvent de Saint-Laurent, fut terminé. Le Quirinal revêtit son indigence intérieure du luxe des porphyres et des marbres romains. Désigné pour le palais impérial, Bonaparte, avant de l'habiter, voulut y faire disparaître les traces de l'enlèvement du pontife captif à Fontainebleau. On se proposait d'abattre la partie de la ville située entre le Capitole et Monte Cavallio, afin que le triomphateur montât par une immense avenue à sa demeure césarienne. Les événements firent évanouir ces songes gigantesques en détruisant d'énormes réalités. Dans les projets arrêtés était celui de construire une suite de quais, depuis Ripetta jusqu'à Ripa Grande. Ces quais auraient été plantés. Les 4 îlots de maisons entre le château Saint-Ange et la place Rusticucci étaient achetés en partie et auraient été démolis. Une large allée eût été ainsi ouverte sur la place Saint-Pierre qu'on eût aperçue du pied du château Saint-Ange. Les Français font partout des promenades. J'ai vu au Caire un grand carré qu'ils avaient planté de palmiers et environné de cafés, lesquels portaient des noms empruntés au café de Paris. À Rome, mes compatriotes ont créé le Pincio. On y monte par une rampe. En descendant cette rampe, je vis l'autre jour passer une voiture dans laquelle était une femme encore de quelque jeunesse. À ses cheveux blonds, au galbe mal ébauché de sa taille, à l'inélégance de sa beauté, je l'ai prise pour une grasse et blanche étrangère de la Westphalie. C'était Madame Guiccioli. Rien ne s'arrangeait moins avec le souvenir de Lord Byron. Qu'importe, la fille de Ravenne, dont au reste le poète était là lorsqu'il prit le parti de mourir, n'en ira pas moins, conduite par la muse, se placer dans l'Élysée en augmentant les divinités de la tombe. La partie occidentale de la place du peuple devait être plantée dans l'espace qu'occupent des chantiers et des magasins. On eût aperçu, de l'extrémité du cours, le Capitole, le Vatican et Saint-Pierre, au-delà des quais du Tibre, c'est-à-dire Rome antique et Rome moderne. Enfin, un bois, création des Français, s'élève aujourd'hui à l'orient du Colisée. On n'y rencontre jamais personne. Quoiqu'il ait grandi, il a l'air d'une broussaille croissant au pied d'une haute ruine. Pline le Jeune écrivait à Maxime : On vous envoie dans la Grèce où la politesse, les lettres, l'agriculture même ont pris naissance. Respectez les dieux, leurs fondateurs, la présence de ces dieux. Respectez l'ancienne gloire de cette nation et la vieillesse, sacrée dans les villes comme elle est vénérable dans les hommes. Faites honneur à leur antiquité, à leurs exploits fameux, à leurs fables même. N'entreprenez rien sur la dignité, sur la liberté, ni même sur la vanité de personne. Ayez continuellement devant les yeux que nous avons puisé notre droit dans ce pays, que nous n'avons pas imposé des lois à ce peuple après l'avoir vaincu, mais qu'il nous a donné les siennes après l'en avoir prié. C'est à Athènes, c'est à Lacédémone que vous devez commander. Il y aurait de l'inhumanité, de la cruauté, de la barbarie, à leur ôter l'ombre et le nom de liberté qu'il leur reste. Lorsque Pline écrivait ces nobles et touchantes paroles à Maxime, savait-il qu'il rédigeait des instructions pour des peuples alors barbares qui viendraient un jour dominer sur les ruines de Rome? Chapitre 13. Promenade. Je vais bientôt quitter Rome et j'espère y revenir. Je l'aime de nouveau passionnément, cette Rome, si triste et si belle. J'aurai un panorama au Capitole, où le ministre de Prusse me cédera le petit palais Caffarelli. À Saint-Onufre, je me suis ménagé une autre retraite. En attendant mon départ et mon retour, je ne cesse d'errer dans la campagne. Il n'y a pas de petit chemin entre deux haies que je ne connaisse mieux que les sentiers de Combourg. Du haut du mont Marius et des collines environnantes, je découvre l'horizon de la mer vers Ostie. Je me repose sous les légers et croulants portiques de la Villa Madama. Dans ces architectures changées en fermes, je ne trouve souvent qu'une jeune fille sauvage, effarouchée et grimpante comme ses chèvres. Quand je sors par la Porta Pia, je vais au pont Lamentano, sur le Téverone. J'admire en passant à Sainte-Agnès une tête de Christ par Michel-Ange, qui garde le couvent presque abandonné. Les chefs-d'œuvre des grands maîtres, ainsi semés dans le désert, remplissent l'âme d'une mélancolie profonde. Je me désole qu'on ait réuni les tableaux de Rome dans un musée. J'aurais bien plus de plaisir par les pentes du Janicule, sous la chute de l'Acqua Paola, au travers de la rue solitaire d'Elie Fornaci, à chercher la transfiguration dans le monastère des Récollets de Saint-Pierre in Montorio. Lorsqu'on regarde la place qu'occupait sur le maître-autel de l'église l'ornement des funérailles de Raphaël, on a le cœur saisi et attristé. Au-delà du pont Lamentano, des pâturages jaunis s'étendent à gauche jusqu'au Tibre. La rivière qui baignait les jardins d'Horace y coule, inconnue. En suivant la grande route, vous trouvez le pavé de l'ancienne voie tiburtine. J'y ai vu cette année arriver la première hirondelle. Gerborise au tombeau de Cecilia Metellia. Le réséda ondé et l'anémone apennine font un doux effet sur la blancheur de la ruine et du sol. Par la route d'Ostie, je me rends à Saint-Paul, dernièrement la proie d'un incendie. Je me repose sur quelques porphyres calcinés et je regarde les ouvriers qui rebâtissent en silence une nouvelle église. on m'en avait montré quelques colonnes déjà ébauchées à la descente du Simplon. Toute l'histoire du christianisme dans l'Occident commence à Saint-Paul hors des murs. En France, lorsque nous élevons quelques bicoques, nous faisons un tapage effroyable. Force machine, multitude d'hommes et de cris. En Italie, on entreprend des choses immenses, presque sans se remuer. Le pape fait dans ce moment même refaire la partie tombée du Colisée. Une demi-douzaine de goujats sans échafaudage redressent le colosse sur les épaules duquel mourut une nation changée en ouvriers esclaves. Près de Vérone, je me suis souvent arrêté pour regarder un curé qui construisait seul un énorme clocher. Sous lui, le fermier de la cure était le maçon. J'achève souvent le tour des murs de Rome à pied. En parcourant ce chemin de ronde, je lis l'histoire de la reine de l'univers païen et chrétien écrite dans les constructions, les architectures et les âges divers de ces murs. Je vais encore à la découverte de quelques villas délabrées en dedans des murs de Rome. Je visite Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean de Latran avec son obélisque, Sainte-Croix de Jérusalem avec ses fleurs. J'y entends chanter. Je prie. J'aime à prier à genoux. Mon cœur est ainsi plus près de la poussière et du repos sans fin. Je me rapproche de la tombe. Mes fouilles ne sont qu'une variété des mêmes plaisirs. Du plateau de quelques collines, on aperçoit le dôme de Saint-Pierre. Que paye-t-on aux propriétaires du lieu où sont enfouis des trésors? La valeur de l'herbe détruite par la fouille. Peut-être rendrai-je mon argile à la terre en échange de la statue qu'elle me donnera. Nous ne ferons que troquer une image de l'homme contre une image de l'homme. On n'a point vu Rome quand on n'a point parcouru les rues de ses faubourgs, mêlées d'espaces vides, de jardins pleins de ruines, d'enclos plantés d'arbres et de vignes, de cloîtres où s'élèvent des palmiers et des cyprès, les uns ressemblant à des femmes de l'Orient, les autres à des religieuses en deuil. On voit sortir de ces débris de grandes romaines, pauvres et belles, qui vont acheter des fruits ou puiser de l'eau aux cascades versées par les aqueducs des empereurs et des papes. Pour apercevoir les mœurs dans leur naïveté, je fais semblant de chercher un appartement à louer. Je frappe à la porte d'une maison retirée. On me répond « Favorisca ». J'entre, je trouve, dans des chambres nues, ou un ouvrier exerçant son métier, ou une zitella, fière, tricotant ses laines, un chat sur ses genoux, et me regardant errer à l'aventure sans se lever. Quand le temps est mauvais, je me retire dans Saint-Pierre, ou bien je m'égare dans les musées de ce Vatican aux 11 000 chambres et aux 18 000 fenêtres, juste l'ipsée. Quelle solitude de chef-d'œuvre! On y arrive par une galerie, dans les murs de laquelle sont incrustés des épitaphes et d'anciennes inscriptions. La mort semble née à Rome. Il y a dans cette ville plus de tombeaux que de morts. J'imagine que les décédés, quand ils se sentent trop échauffés dans leur couche de marbre, se glissent dans une autre couche de marbre restée vide, comme on transporte un malade d'un lit dans un autre lit. On croirait entendre les squelettes passer durant la nuit de cercueil en cercueil. La première fois que j'ai vu Rome, c'était à la fin de juin. La saison des chaleurs augmente le délaissé de la cité. L'étranger fuit, les habitants du pays se renferment chez eux, on ne rencontre pendant le jour personne dans les rues. Le soleil darde ses rayons sur le Colisée où pendent des herbes immobiles, où rien ne remue que les lézards. La terre est nue, le ciel sans nuages paraît encore plus désert que la terre. Mais bientôt la nuit fait sortir les habitants de leurs palais et les étoiles du firmament. La terre et le ciel se repeuplent. Rome ressuscite. Cette vie recommencée en silence dans les ténèbres, autour des tombeaux, à l'air de la vie et de la promenade des ombres qui redescendent à l'érèbe aux approches du jour. Hier, j'ai vagué au clair de la lune dans la campagne entre la porte angélique et le mont Marius. On entendait un rossignol dans un étroit vallon balustré de cannes. Je n'ai retrouvé que là cette tristesse mélodieuse dont parlent les poètes anciens, à propos de l'oiseau du printemps. Le long sifflement que chacun connaît et qui précède les brillantes batteries du musicien ailé n'était pas perçant comme celui de nos rossignols. Il y avait quelque chose de voilé comme le sifflement du bouvreuil de nos bois. Toutes ces notes étaient baissées d'un demi-ton. Sa romance à refrain était transposée du majeur au mineur. Il chantait à demi-voix. Il avait l'air de vouloir charmer le sommeil des morts et non de les réveiller. Dans ses parcours incultes, la Lydie d'Horace, la Délie de Tibulle, la Corinne d'Ovide avaient passé. Il n'y restait que la Philomèle de Virgile. Cet hymne d'amour était puissant dans ce lieu et à cette heure. Il donnait je ne sais quelle passion d'une seconde vie. Selon Socrate, l'amour est le désir de renaître par l'entremise de la beauté. C'était ce désir que faisait sentir à un jeune homme une jeune fille grecque en lui disant « S'il ne me restait que le fil de mon collier de perles, je le partagerais avec toi. » Si j'ai le bonheur de finir mes jours ici, je me suis arrangé pour avoir à Saint-Onufre un réduit joignant la chambre où le Tasse expira. Au moment perdu de mon ambassade, à la fenêtre de ma cellule, je continuerai mes mémoires. Dans un des plus beaux sites de la terre, parmi les orangers et les chênes verts, Rome entière sous mes yeux, chaque matin, en me mettant à l'ouvrage, entre le lit de mort et la tombe du poète, j'invoquerai le génie de la gloire et du malheur. Chapitre 14. Mon neveu Christian de Chateaubriand. Dans les premiers jours de mon arrivée à Rome, lorsque j'errais ainsi à l'aventure, je rencontrai entre les bains de Titus et le Colisée une pension de jeunes garçons. Un maître à chapeau rabattu, à robe traînante et déchirée, ressemblant à un pauvre frère de la doctrine chrétienne, les conduisait. Passant près de lui, je le regarde, je lui trouve un faux air de mon neveu Christian de Chateaubriand, mais je n'osais en croire mes yeux. Il me regarde à son tour, et sans montrer aucune surprise, il me dit « Mon oncle !» Je me précipite tout ému et je le serre dans mes bras. D'un geste de la main, il arrête derrière lui son troupeau obéissant et silencieux. Christian était à la fois pâle et noirci, miné par la fièvre et brûlé par le soleil. Il m'apprit qu'il était chargé de la préfecture des études au collège des Jésuites, alors en vacances à Tivoli. Il avait presque oublié sa langue, il s'énonçait difficilement en français, ne parlant et n'enseignant qu'en italien. Je contemplais, les yeux pleins de larmes, ce fils de mon frère devenu étranger, vêtu d'une souquenille noire, poudreuse, maître d'école à Rome, et couvrant d'un feutre de cénobite son noble front qui portait si bien le casque. J'ai vu naître Christian. Quelques jours avant mon émigration, j'assistais à son baptême. Son père, son grand-père, le président de Rosambo, et son bisaïeul, M. de Malesherbes, étaient présents. Celui-ci le tint sur les fonds et lui donna son nom, Christian. L'église Saint-Laurent était déserte et déjà à demi dévastée. La nourrice et moi, nous reprîmes l'enfant des mains du curé. Io piangendo ti pressi e in breve cesta fuor ti portai. Tasso. Le nouveau-né fut reporté à sa mère, placé sur son lit, où cette mère et sa grand-mère, Madame de Rosambo, le reçurent avec des pleurs de joie. 2 ans après, le père, le grand-père, le bisaïeul, la mère et la grand-mère avaient péri sur l'échafaud, et moi, témoin du baptême, j'errais, exilé. Tels étaient les souvenirs que l'apparition subite de mon neveu fit revivre dans ma mémoire au milieu des ruines de Rome. Christian a déjà passé la moitié de sa vie dans l'orphelinage. Il a voué l'autre moitié aux autels. Foyer toujours ouvert du Père commun des hommes. Christian avait pour Louis, son digne frère, une amitié ardente et jalouse. Lorsque Louis se fut marié, Christian partit pour l'Italie. Il y connut le duc de Rohan-Chabot et il y rencontra Madame Récamier. Comme son oncle, il est revenu habiter Rome, lui dans un cloître, moi dans un palais. Il entra en religion pour rendre à son frère une fortune qu'il ne croyait pas posséder légitimement par les nouvelles lois. Ainsi, Malesherbes est maintenant avec Combourg à Louis. Après notre rencontre inattendue au pied du Colisée, Christian, accompagné d'un frère jésuite, me vint voir à l'ambassade. Il avait le maintien triste et l'air sérieux. Jadis, il riait toujours. Je lui demandai s'il était heureux. Il me répondit « J'ai souffert longtemps. Maintenant, mon sacrifice est fait et je me trouve bien. » Christian a hérité du caractère de fer de son aïeul paternel, M. de Chateaubriand, mon père, et des vertus morales de son bisaïeul maternel, M. de Malesherbes. Ses sentiments sont renfermés, bien qu'il les montre, sans égard aux préjugés de la foule, quand il s'agit de ses devoirs. Dragon dans la garde, en descendant de cheval, il allait à la Sainte Table. On ne s'en moquait point, car sa bravoure et sa bienfaisance étaient l'admiration de ses camarades. On a découvert, depuis qu'il a renoncé au service, qu'il secourait secrètement un nombre considérable d'officiers et de soldats. Il a encore des pensionnaires dans les greniers de Paris, et Louis acquitte les dettes fraternelles. Un jour, en France, je manquerai de Christian s'il se marierait. « Si je me mariais, répondit-il, j'épouserais une de mes petites parentes, la plus pauvre. » Christian passe les nuits à prier. Il se livre à des austérités dont ses supérieurs sont effrayés. Une plaie qui s'était formée à l'une de ses jambes lui était venue de sa persévérance à se tenir à genoux des heures entières. Jamais l'innocence ne s'est livrée à tant de repentir. Christian n'est point un homme de ce siècle. Il me rappelle ses ducs et ses comtes de la cour de Charlemagne, qui, après avoir combattu contre les Sarrasins, fondaient des couvents sur les sites déserts de Gelone ou de Malaval, et s'y faisaient moines. Je le regarde comme un saint. Je l'invoquerai volontiers. Je suis persuadé que ses bonnes œuvres, unies à celles de ma mère et de ma sœur Julie, m'obtiendraient grâce auprès du souverain juge. J'ai aussi du penchant au cloître, mais mon heure étant venue, c'est à la Portioncule, sous la protection de mon patron, appelé François parce qu'il parlait français, que j'irai demander une solitude. Je veux traîner seul mes sandales. Je ne souffrirai pour rien au monde qu'il y eût deux têtes dans mon froc. « Jeune encore, dit le Dante, le soleil d'Assise épousa une femme à qui, comme à la mort, personne n'ouvre la porte du plaisir. Cette femme, veuve de son premier mari depuis plus de 1100 ans, avait langui obscure et méprisée. En vain elle était montée avec le Christ sur la croix. Quels sont les amants que te désignent ici mes paroles mystérieuses? François et la pauvreté, Francesco et Poverta. Paradiso, Cantique 11. Chapitre 15. À Madame Récamier. Rome, 16 mai 1829. Cette lettre partira de Rome quelques heures après moi et arrivera quelques heures avant moi à Paris. Elle va clore cette correspondance qui n'a pas manqué un seul courrier et qui doit former un volume entre vos mains. J'éprouve un mélange de joie et de tristesse que je ne puis vous dire. Pendant 3 ou 4 mois, je me suis assez déplu à Rome. Maintenant j'ai repris à ces nobles ruines, à cette solitude si profonde, si paisible, et pourtant si pleine d'intérêt et de souvenirs. Peut-être aussi le succès inespéré que j'ai obtenu ici m'a attaché. Je suis arrivé au milieu de toutes les préventions suscitées contre moi, et j'ai tout vaincu. On paraît me regretter. Que vais-je retrouver en France? Du bruit au lieu de silence, de l'agitation au lieu de repos, de la déraison, des ambitions, des combats de place et de vanité. Le système politique que j'ai adopté est tel que personne n'en voudrait peut-être, et que d'ailleurs on ne me mettrait pas à même de l'exécuter. Je me chargerais encore de donner une grande gloire à la France, comme j'ai contribué à lui obtenir une grande liberté. mais me ferait-on table rase? Me dirait-on, soyez le maître, disposez de tout au péril de votre tête? Non, on est si loin de vouloir me dire une pareille chose que l'on prendrait tout le monde avant moi, que l'on ne m'admettrait qu'après avoir essuyé les refus de toutes les médiocrités de la France, et qu'on croirait me faire une grande grâce en me reléguant dans un coin obscur. Je vais vous chercher. Ambassadeur ou non, c'est à Rome que je voudrais mourir. En échange d'une petite vie, j'aurai du moins une grande sépulture, jusqu'au jour où j'irai remplir mon cénotaphe dans le sable qui m'a vu naître. Adieu. J'ai déjà fait plusieurs lieues vers vous. Thank you.